On parle littérature justement avec Dany Laferrière. On se jase parce que Dany vient de temps en temps à Montréal, mais c'est quand même un visiteur rapide parce qu'il vit désormais à Paris. D'ailleurs, merci d'être là, Dany Laferrière, grand invité d'honneur du 41e Salon du Livre de Montréal qui prend fin cet après-midi, qui a été un grand succès. D'ailleurs, chaque année, il y a quelque chose de rassurant, Dany, tu trouves pas, dans le fait de voir des hordes de jeunes, d'enfants, puis ça fait 4 jours là, qu'on n'arrive pas à se garer autour parce qu'il y a plein d'autobus scolaires et tout, et puis qu'on voit à quel point les livres, dont on avait quand même dit il y a quelques années que ça allait être fini, là, on avait quand même annoncé la fin du livre.
Oui, il y en avait beaucoup qui en parlaient comme ça, mais il y avait des sceptiques aussi, c'est-à-dire, c'est très rare, des sceptiques du pessimisme.
Mais c'est fabuleux de voir ça.
Moi, je savais très bien que les humains n'allaient jamais, quand même, jeter par-dessus de bord un savoir pareil, une expérience pareille qui a commencé depuis les papyrus et qui a pris un rebondissement avec l'imprimerie. Et là, encore un autre, quand on a mis les livres en poche, permettant aux étudiants, aux gens plus démunis de se procurer de la culture. Et c'est une trajectoire trop importante, une trace culturelle trop forte pour qu'on balance ça, et parce qu'il y a un petit appareil qui vient d'arriver.
Mais un petit appareil qui a pris tellement de place dans nos vies, ça aurait été normal à la rigueur que
le livre perde. Ça a pris du temps dans nos vies.
Ouais, ça a pris du temps.
Au contraire, c'est ça sa force. Ça ne prend pas de place.
Non,
on peut mettre toute une bibliothèque à l'intérieur de ce petit appareil. Mais il faut le prendre comme presque un ennemi de l'esprit quelque part aussi parfois. Parce que ça nous a trompés. Ça nous a pas dit qu'on ne peut pas lire les livres qui sont dans la bibliothèque de l'appareil. Dit que nous avons tous les livres. Mais les lire, c'est quelque chose... C'est comme si c'était dans notre ADN que lire s'accompagne d'un poids. Le poids du livre, la texture du papier. Il y a quelque chose. Beaucoup de gens, naturellement, c'est nouveau. C'est une curiosité nouvelle. Et on choisit le petit appareil.
La tablette, de lire sur des tablettes. Est-ce que tu lis des livres sur des tablettes, hein, sur une tablette?
Non,
jamais.
Non, jamais.
Est-ce que tu l'as essayé?
Non.
Ça t'intéresse même pas de voir?
Non, c'est comme au début pour moi, pour l'Internet. Après, quand même, j'ai pris l'ordinateur pour écrire un peu. L'argument ne m'a jamais intéressé. C'est toujours de faire plus vite, d'avoir toujours ça avec soi. Et même les livres, je ne fais pas que lire dans ma vie. Je trouve que ce n'est pas bien. Pour bien lire, il faut observer la vie. Le grand livre du paysage humain, des gens qui marchent, il faut les regarder vivre. Pour bien écrire aussi. Et la littérature ne vient pas uniquement de la bibliothèque ni des livres. La littérature vient de la vie aussi. Et donc, aucun engouement est trop excessif. Je reste dans la vieille école de la modération dans tout. Je crois qu'il faut balancer, il faut équilibrer les choses, il faut être composite. Il faut qu'il y ait quelque chose, beaucoup de matières diverses qui nous composent, je crois, sans aller jusqu'à une idéologie de la biodiversité, mais je crois qu'on est fait de beaucoup de choses.
De livres et de techno un peu.
Bien sûr. C'est nous qui les faisons. Et le livre est une technologie aussi. Et du temps qu'on n'en faisait pas, il a fallu qu'on invente cette technologie du papyrus qui voulait garder la mémoire, l'histoire sur du papier quand même. Il a fallu faire le papier, je ne dis pas. C'était de la première technologie.
C'est de la technologie.
C'est l'ancêtre de cet appareil-là. C'est la proposition qui est contestable, c'est-à-dire de nous ouvrir toutes les cultures sans nous donner les clés pour y aller. Et la première clé, c'est le désir.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Veut-on y aller? Veut-on lire tous les livres?
Donc, les
avoir tous dans la main et ne pas... Vous savez,
tu choisis quand même, sur ta tablette, il faut que tu les payes d'abord, puis ça, tu vas être d'accord avec ça. Bon, il y a quand même... Donc, tu choisis les livres. Dans le fond, il y a bien des gens qui vont dire, dans le fond, que je l'achète en copie papier ou que je le commande sur ma tablette, ça revient au même.
Non, ce n'est pas le même mouvement. D'ailleurs, on l'a vu quand on nous a dit qu'on pouvait payer avec la carte de crédit. Beaucoup de gens se sont ruinés. Il a fallu leur apprendre comment s'en servir. Et ça a pris des années et beaucoup, beaucoup de faillites. Et parce que ce mouvement simple, le mouvement de la dépense était lié à un effort, à le temps d'y penser, le temps de revenir. Et là, maintenant, avec l'idée, et ça va de plus en plus vite maintenant, il y a des cartes de cartes de crédit, vous n'avez qu'à toucher l'appareil.
Non, mais c'est sûr.
Et donc, c'est pas la même chose.
Écoute, je disais là, qu'il n'y aurait plus d'argent bientôt, il n'y aurait plus d'argent comptant, là. Ça allait que de l'argent virtuel.
Oui, ben, il y a une classe catégorie sociale où l'argent comptant n'existe pas.
Les jeunes sont beaucoup là-dedans. Là. C'est peut-être.
Mais complètement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le livre a un poids, c'est un choix. Même si tu le choisis dans l'appareil, ce n'est pas avec la même vitesse. Et ça, je me souviens d'ailleurs, quand ma fille, la première fois, est arrivée avec un CD, et à l'époque. Et elle l'avait acheté pour une seule musique, pour un seul morceau de Mary J. Blige ou quelque chose comme ça. Et c'est le numéro 9. Et toutes ses amies n'écoutaient que le numéro 9. Alors j'ai dû lui expliquer patiemment qu'un CD, c'est une architecture. Et que la personne qui l'a construite a pensé à un univers sonore, mental, intellectuel, le 1, le 2, le 3. Tu ne peux pas écouter une seule musique. Et c'est pas bien d'ailleurs pour elle. Tu ne rentreras pas dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et c'était ça l'opération. C'est de pouvoir comprendre quelqu'un d'autre. Et là, je sentais que, quelque part, entre guillemets, il y avait une barbarie dans la culture qui arrivait. La possibilité de faire son choix, de dire que je peux aller au 9 et sauter les 8. C'est un peu comme les gens qui disent souvent, les écrivains, c'est mon livre préféré de vous. Oui, on a le droit, bien sûr, naturellement. Mais d'abord, souvent, les gens n'ont pas tout lu. En disant mon préféré. Mais aussi, c'est pas construit pour que tel livre soit le meilleur. Pour sentir ce qu'il est le meilleur, il faut avoir lu quelques-uns d'autres. Parce que la personne peut vouloir faire une progression.
Dans l'œuvre.
Oui.
C'est l'œuvre.
Quand on chante à l'opéra, c'est pas la plus haute note qui est la meilleure. Ça peut impressionner quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît pas, mais c'est pas la plus haute, ni la plus difficile, qui soit la meilleure. Donc, on perd toute idée de progression, toute idée d'architecture, toute idée d'harmonie, toute configuration générale. C'est ça, c'est là qu'on perd quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas du tout un produit consommable. Il y a quand même aussi une visée de comprendre l'autre et d'appréhender l'univers dans lequel on est.
Donc, pour bien comprendre Dany Laferrière, il faut lire tout Dany Laferrière, idéalement.
Ou presque, mais comme on ne peut pas le faire, on peut lire quelques-uns. Mais seulement, il faut quand même se garder d'avoir une opinion générale. Comme beaucoup de gens m'ont dit, ça c'est mon préféré, je crois que c'est votre meilleur. Ou les critiques qui disent à chaque fois, immanquablement, et pas pour moi seulement, je crois que c'est votre livre le plus personnel. Qu'en savez-vous? Moi, je n'en sais rien. Alors, je ne peux pas écrire autre chose que personnel. Et personnel ne veut pas dire que je dis « je ».
Ouais.
Personnel, c'est au contraire, on se cache mieux dans les livres qui apparaissent plus général, plus anonyme. Et dans une œuvre, dans un livre qui apparaît plus général, plus anonyme, on se cache mieux que quand on dit je. Quand on dit je, la personne est complice dès le départ, il sait que c'est vous. Mais quand on ne dit pas je, on peut faire des confessions plus profondes,
plus intimes, plus vraies.
Absolument.
On est en compagnie de l'auteur Dany Laferrière, qui a publié il n'y a pas très longtemps « Autoportrait de Paris avec chat », où il parle au jeu, finalement, là-dedans.
Oui, bien sûr, mais souvent.
souvent, ben, c'est pas mal ça, oui, ton œuvre, entre autres. Dany est avec nous. Si vous voulez lui parler, 514-790-9850, 1-866-790-9850, on va parler un petit peu de Paris et du chat et de Dany. À tout de suite, tout le monde. Dany Laferrière a publié il n'y a pas très longtemps « Autoportrait de Paris avec chat ». C'est publié chez Boréal. C'est un livre dessin. C'est un livre où il nous parle de ce Paris qu'il découvre depuis presque 5 ans comme académicien. Ce qui ne l'empêche pas d'être actif aussi sur d'autres plans. Entre autres, il y a la promotion du français qui tient à cœur, Dany. On s'en était parlé la dernière fois de cette fondation de la langue française pour la langue française que tu as créée. Et là, je sais que tu ne veux pas intervenir dans les questions de langue ou de entre autres, je te parlais de ce qui s'est passé en Ontario ces jours-ci, Doug Ford, le premier ministre, qui a aboli le commissariat aux services en français de l'Ontario, qui a aussi dit qu'une autre université, une université en français en Ontario, il n'y en était pas question. Et tu me dis, moi, je ne veux pas intervenir dans ces cas-là.
Ah, pas dans ce cas-là.
Ou dans les cas où on t'interpelle sur la langue.
Jamais, pas sur la langue seulement, j'ai jamais réagi sur la situation politique haïtienne. Ouais. Je n'ai réagi que lors du tremblement de terre parce que j'y étais présent.
Ouais.
Je n'ai pas réagi quand les immigrants haïtiens, ceux qui venaient des États-Unis, étaient à la frontière et autour, les journalistes me cherchaient pour avoir une réaction. Bon, d'abord, première chose, j'ai remarqué, je ne signe pas de manifeste non plus, et d'abord, j'ai remarqué que dès que mon nom se trouve quelque part, il surnage. Et souvent, efface les autres noms qui sont là, c'est Dany Laferrière et un tel et tel, on nomme trois ou quatre connus, on dit, on signe ou des choses comme ça. Ce qui fait que l'arbre cache la forêt.
Mm-hmm.
Et je crois, moi, dans la société, je crois que ce n'est pas toujours une bonne chose que les gens, les premiers de cordée, les gens qui sont en avant, et réagissent tout de suite. Il faut laisser pour savoir profondément comment la société réagit. Je me souviens quand on m'avait appelé pour l'affaire des Haïtiens qui étaient à la frontière, j'ai dit, c'est une chose qui regarde la société québécoise et la société américaine d'abord. Et non l'élite intellectuelle et l'élite économique. Et il faut quand même que l'arbre et la forêt se montrent et ne se cachent pas derrière les arbres non plus.
Mm-hmm.
Et parce que sinon...
Mais s'il n'y a pas des porte-paroles, comme là en ce moment au Québec, on parle beaucoup du pacte, le pacte pour la transition écologique, il y a plein d'artistes qui ont signé.
C'est mon opinion personnelle.
Ouais.
C'est ce que j'ai remarqué. J'ai dit même chez les porte-paroles, il y a les porte-paroles des porte-paroles.
Ouais.
Et c'est là aussi que ces arbres, ces quelques arbres qui se trouvent là. Regardez un peu dans ce qui se passe internationalement, que ce soit aux États-Unis ou dans les milieux genre d'Hollywood et autres. Vous pouvez remarquer que durant les 30 dernières années qu'on a observé que Hollywood s'est politisé un peu, c'est les mêmes noms.
Oui, c'est sûr.
C'est les mêmes noms. Et le nombre de gens qu'il y a dans Hollywood, dans le milieu du show business américain, que ce soit les musiciens aussi et tout, c'est énorme. Et aussi réagissent, mais il n'y a que les mêmes noms. C'est Alec Baldwin, c'est un tel.
Mais sur la langue en particulier, tu n'as jamais été tenté?
Et moi, je ne fais que ça. Chaque matin, je me lève, je m'assois à ma table de travail et j'écris et je tente d'écrire la meilleure langue possible, qui n'est pas forcément la plus complexe ni la plus raffinée, mais que j'espère la plus juste. Et celle qui me fait dire qu'on n'est pas bien habillé si l'on vous remarque. Ça prend du temps. Et c'est ça qui réagit contre toutes ces choses-là. Sinon, signer mon nom, et je peux le faire chaque jour. Je reçois une cinquantaine de demandes un peu partout, parce que dès que vous avez une position, mettons, d'académiciens, que ce soit d'Afrique, que ce soit partout, que ce soit sur la politique, les gens, les écrivains qui sont en prison, je ne ferai que cela.
Mais tu as quand même fait une fondation pour la langue française.
Je n'ai pas fait une fondation. J'ai parrainé.
Je parraine
une fondation pour la langue française précisément parce qu'on m'avait dit qu'elle était hors de tous ces jeux-là.
Mm-hmm.
C'était quelque chose pour que, quand les réfugiés viennent, qu'ils puissent recevoir un enseignement, et j'avais beaucoup insisté là-dessus, qu'ils ne soient pas d'ordre pédagogique ni idéologique, c'est-à-dire qu'on puisse leur montrer des films québécois tout simplement, pas des films qui leur apprennent comment vivre au Québec, pas des films qui leur disent combien ils doivent devenir des citoyens et de bons citoyens, non, des films amusants, mais qu'ils entendent le français dans cela. Parce qu'eux aussi ont besoin d'un peu de vacances dans leur tête et quand ils travaillent très dur à l'usine et quand ils doivent penser que leur condition n'est pas totalement établie, ils pensent à leur famille. J'ai dit, pourquoi ne pas penser que la langue peut être quelque chose qui... C'est, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel que les gens apprennent la langue du pays où ils arrivent et pour qu'ils soient d'abord fonctionnels là-dedans, point. Il n'y avait aucune idéologie.
Mais tu vois, je lis unique organisme de bienfaisance entièrement consacré à la promotion du français avec une présence partout au Canada. L'Ontario, ça va être difficile.
Oui, mais non, tu ne mourras pas là-dedans. je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis chaque matin à ma table de travail et j'essaie d'écrire des livres. C'est ainsi que j'ai pu écrire 30 livres. Vous savez, et d'ailleurs, Barack Obama en a subi la situation aussi. Quand un Noir arrive à Harvard, s'il est un peu brillant, on le nomme dans tous les groupes. Il fait partie de toutes de tous les clubs et il est bombardé parfois comme Barack Obama, dit, mettons, rédacteur en chef du Crimson, enfin du journal, s'il est candidat, s'il est avocat, s'il étudie le droit. Et c'est comme ça qu'ils échouent. Ouais. La deuxième année, ils ne peuvent pas suivre, ils ont été trop bien accueillis.
Ouais.
Et là, il faut faire ce qu'on sait faire un peu et parler de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait le mieux parler, et ça avance la société autant.
Merci beaucoup, Dany Laferrière. C'est toujours un plaisir.
Merci.
Merci bien. On se retrouve demain, tout le monde. Passez une très bonne journée.